Oui, Manuel, je m'interroge sur le sens à donner au constat desquels tu es parti, constat de non-publication, quoi. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut faire dire à ça? Est-ce que, sous prétexte qu'on ne le dit pas, est-ce qu'on ne le fait pas? Ce qui probablement n'est pas le cas, n'est pas toujours le cas. Hein. Donc, autrement dit, je pense qu'il ne doit pas falloir aller trop vite. Hein. Et si c'est le cas, justement, est-ce que les constats que tu dresses n'en disent pas plus sur les normes d'écriture en sciences sociales que sur la manière de travailler? Bon, parce que ce qui est intéressant dans tout ce que tu as, il y a l'effet d'article, il y a l'effet de livre, il y a l'effet de cours. Autrement dit, on peut dire, c'est légitime de dire en cours et de descendre au niveau de la cuisine quand on fait un cours, mais on ne le dira pas dans un article et peut-être encore moins dans un livre, je ne sais pas. Hein, ou alors, faut-il prendre en compte une autre, je pense à la littérature grise. Alors là, on peut, je pense par exemple, les premières productions du centre sur au moment de l'étude des pratiques pédagogiques des étudiants, il y avait un texte, c'était quasiment de la littérature grise, où notamment Passon expliquait comment ils ont trouvé la notion de sursélection à partir d'un tableau statistique qui était plat comme un encéphalogramme de mourant. Hein, et justement, parce que il n'y avait aucune variation statistique, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les étudiants de classe populaire réussissent autant, sinon mieux, que les... Bon, c'est le bazar. La notion de sursélection était venue. Mais ça, moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert ça plutôt dans une littérature grise. Hein, donc, autrement dit, quel genre de littérature faut-il aller consulter pour vraiment avoir la totalité des facettes et quelle est cette force qui nous contraint tous à dire ça, je vais pas le mettre, ça va faire chier tout le monde, bon, etc. Bon, ou la revue elle-même en disant non, non, ça vous passez là-dessus. Bon, donc entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on écrit. Bon, comment penser pour Fabienne, j'avais une petite question. Bon. Là, on aura le temps d'en reparler localement. Bon, parce que je crois sentir une certaine gêne à penser à la fois le local. J'ai l'impression que le local t'embête, non? Et que une de tes questions, c'est qu'est-ce que si je tiens trop le local, est-ce que je lâche les rapports de domination ou j'aimerais que si tu pouvais reformuler un peu. Bon, parce qu'on est typiquement dans une région où la fabrication du local fait partie des stratégies de domination. Bon, moi, il se trouve qu'avec Jean-Clément Martin, j'avais travaillé sur le Puy du Fou et de manière très très contradictoire, parce que le même, bon, j'ai assisté à une réunion d'agriculteurs avec le De Villiers qui présidait la séance, qui prône une Vendée rurale catholique, etc., et qui en même temps, le même soir, prônait le retour à une autosuffisance alimentaire française auprès d'agriculteurs vendéens qu'il avait devant lui, qui sont le deuxième département exportateur. Donc, autrement dit, pris complètement en contradiction entre la vision idéologique qu'il veut donner d'une Vendée qui n'aurait pas dépassé le milieu du XVIIIe siècle, disons, hein, et puis une Vendée réelle qui a besoin d'une conception. Bon. Autrement dit, justement, l'image du local, là, est typiquement un enjeu de bagarre. C'est ce que je crois que tu travailles, ce sur quoi tu travailles, quoi.
Alors, s'agissant de ce que tu dis, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, c'est pas le fait de repérer qui est dans les lieu de publication, de questions méthodologiques, de réflexion sur la réflexion météorologique qui n'est pas de référence explicite à la conscienciologie ne signifie pas que ça soit quelque chose qui ne soit pas présent. Et justement, le fait de pointer un paradoxe en disant c'est quelque chose qui est très structurant pour beaucoup de gens, etc., c'est une opération centrale et ce qui va faire la qualité d'un travail, dire c'est bien construit, etc. Donc c'est très présent en tant que catégorie de fonctionnement, catégorie d'entendement. Mais mon constat, c'était de dire que dans les lieux de publication légitimes sur les questions méthodologiques, ça n'apparaît pas, en fait. C'est juste signifier ce contraste. Il faudrait... je m'étais dit que ça serait des choses à faire, et je l'ai fait dans deux départements lillois, essayer de récupérer les plaquettes de TD qui sont données, et ça apparaît. Effectivement, dans les cours de méthode, et souvent c'est dans la première ou deuxième séance, la construction d'objets. Donc c'est quelque chose qui est enseigné, mais qui après, c'est quand même assez frappant de voir à quel point, et comme la question de l'écriture, quelque chose qui n'est pas discuté, et je pense que ça a quand même beaucoup à voir avec une sorte de division technique du travail que j'évoquais. Il y a les tâches techniques, c'est la conduite de l'entretien, c'est comment on va voir des enquêtés, comment on construit sa population, et des tâches intellectuelles qui sont du domaine strictement privé, et sur lesquelles, finalement, il y a peu d'écrits concrets à sous la main, en fait. Et ma meilleure contribution, c'était d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Et en fait, on voit que c'est compliqué, hein. Je dis pas que c'est simple, mais voilà, pour dire rapidement. Et j'avais pris l'indicateur jeunesse parce que c'est une revue quand même qui historiquement a porté ça, cette exigence de réflexivité, etc. Et quand on prend par exemple la rubrique savoir-faire, la caricature qui est donnée de cette rubrique, c'est des caricatures que j'ai déjà entendues, qui dit ah bah tiens, un jour je vais faire un entretien avec quelqu'un en étant bourré, comme ça je pourrais en faire un article dans Genèse, comment faire un entretien quand on est bourré, etc. etc. Bref, donc l'idée, on voit sur les modes un peu façon un peu triviale, etc. Donc, mais c'est ça qui vraiment, en fait, qui sort. Enfin, je pense que la caricature est intéressante parce que c'est un trait grossissant de ce que les gens perçoivent d'une réalité sociale, et je pense que cette rubrique est avant tout perçue par ça, comme ça. Et en tout cas, au regard des textes qui arrivent et des textes qui sont publiés, c'est effectivement ça qui est central. Et alors même que la revue porte l'exigence « le peintre dans le tableau », etc., etc., eh bien, en fait, le peintre dans le tableau est très présent dans l'encadré méthodologique, mais dans le reste du temps, le reste du texte, il n'est pas là, en fait.
Donc, à la fois, je revendique de vouloir faire une monographie, donc d'être en local, un territoire précis, et en même temps, je raisonne en termes de champ, de système relationnel, qui évidemment dépasse le territoire. Et donc ma question, c'est, et je veux me centrer, enfin je veux partir de la domination économique, que je trouve un peu sous-étudiée, donc plus que la domination politique, partir de la domination économique, même si ça m'amène évidemment à travailler sur le politique. Et c'est là où j'ai des problèmes, c'est-à-dire que j'ai dit, mais quelle pertinence il y a à aller regarder mes patrons qui, si je regarde leurs enjeux de marché, c'est des enjeux de marché nationaux ou internationaux. Pour d'autres, effectivement, il va y avoir des enjeux locaux, comme a pu voir là, il fournit, là, lui, sur l'agroalimentaire, où il va y avoir des alliances entre eux, etc. Forcément, ça dépasse le local. Donc, comment à la fois tenir l'intérêt du local, c'est-à-dire d'avoir les éléments de leur style de vie, de leurs liens précis avec, avec leurs différentes implications dans leurs différents cercles. En quoi ils font groupe, hein, en quoi cette proximité physique fait qu'ils forment un groupe ou pas, et est-ce que c'est pas du coup complètement éclaté puisque je vais avoir des directeurs généraux est-ce que les directeurs généraux qui habitent ici est-ce que eux sont en lien avec le préfet, est-ce que eux sont en lien qu'est-ce qu'il y a comme relation entre des gens qui vont être sur eux par exemple les enjeux de leur groupe à un niveau national ou international, et puis mais qui ont aussi peut-être certaines implications locales, lesquelles et comment ça fonctionne. Donc Ce qui me gêne, c'est, c'est l'éclatement. Mais non, le local, je le revendique parce que je me dis que c'est simple, c'est en travaillant comme ça sur ce territoire que je vais avoir accès à des situations précises, à des configurations où je vais pouvoir observer, comme je disais à certains moments, des pratiques, ce qui m'intéresse, des pratiques ordinaires de cette bourgeoisie économique. Donc il me semble que ça, je ne peux le voir qu'à un niveau, local est peut-être pas le bon mot, mais enfin un territoire précis, quel qu'il soit. D'ailleurs, ça pourrait être à Paris. Mais...
Alors, pour Fabienne, je me pose la question des institutions qui fournissent des sources d'archives ou des sources statistiques ou des sources documentaires, comme par exemple l'INSEE. Et je me demande, dans ton travail, par exemple, comment ces sources elles-mêmes prédéterminent, d'une certaine manière, prédéfinissent un certain nombre de rapports de domination, enfin une vision du monde patronal, par exemple, dans la région nantaise, qui t'oblige probablement à une véritable distance, à une distanciation, toi, pour ta propre recherche sociologique, j'imagine. Mais en même temps, tu es obligé de travailler sur ces sources. Donc, bon, ma question, elle est là. C'est une question qu'on a dans toutes les régions. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans ton travail, dans tes trois enquêtes, c'est l'idée qu'on pourrait, au fond, les reconduire partout, quoi, dans toutes les régions françaises. Et à mon avis, on en tirerait, par exemple, en Limousin, on tirerait des choses formidables, à mon avis, des choses tout à fait intéressantes, aussi bien sur le plan de la... Du patronat local que, par exemple, des mobilisations politiques. Et, par exemple, sur le patronat local, je voudrais dire un mot. Il y a aussi des images. Alors, je parlais tout à l'heure des institutions ou de sources, mais il y a des images de régions. Par exemple, le Limousin, on l'associe à l'élevage, on l'associe à la porcelaine, on l'associe au travail des émaux, à l'artisanat, etc. Donc, comment cette image... participe de cette domination dont tu parles et que tu veux précisément, à mon avis, élucider. Ça, c'est la première question. Et puis, pour Manuel, une question sur Genèse, puisque je suis évidemment partie prenante, un fondateur de cette revue, si on peut dire. Bon, tu as tout à fait raison quand tu dis, effectivement, on parlait très peu de construction d'objets. J'en parle au passé parce que je suis maintenant vraiment dans les... dans le passé... disons que construction d'objets, c'est vrai que ce n'était pas un terme qu'on employait très souvent. Il faut se dire d'abord que c'est une revue qui est quand même fortement dominée par les historiens. Et le problème des historiens, c'est fondamentalement le problème du rapport à l'archive. Voilà. Et le rapport à l'archive est source d'inquiétude. Qu'est-ce que je fais avec une source notariale? Qu'est-ce que je fais avec un registre notarial sur un droit de propriété ou autre chose? Voilà, c'est ça. Est-ce que la construction de l'objet n'est pas directement liée au traitement de l'archive, me semble-t-il? En tout cas, ça ne se présente pas comme ça, même si, effectivement, il y a tout un travail de mise à distance de l'archive, de recomposition du sens de l'archive, un peu à la manière d'un archéologue. Voilà. Et il me semble qu'on était plus des archéologues sur des archives que, véritablement, des gens qui construisaient des objets en tant que tels, me semble-t-il. On était faibles, les sociologues, d'une certaine manière, parce que même les historiens, je pense à Christian, on peut le dire, hein, même en citant son nom, Christian Topalov, par exemple, était aligné sur ce mythe de l'archive, si on peut dire. Il voulait absolument que l'archive soit la norme permettant de penser véritablement la recherche, et en tout cas le rapport à la recherche.
Donc, les institutions comme source privilégiée, effectivement, il y a notamment des observatoires régionaux de l'INSEE, hein, qui produisent des choses. Bon, c'est vrai que ma posture, c'est la posture classique de dire il y a deux moments. Donc, critique de la source, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle a été constituée, etc. Mais donc, effectivement, plus ou moins approfondi. Là, c'est vrai que ce que j'ai fait sur l'annuaire, là, je l'ai particulièrement approfondi. Je ne peux pas faire ce genre de choses sur toute production, mais l'idée que en déconstruisant la source, déjà j'apprends plein de choses, et puis deuxième moment, cette objectivation du réel, quel que soit le biais avec lequel elle a été construite, me donne accès à une forme de connaissance sur quelle était la réalité à cette période. Donc Donc voilà. Ensuite, sur la question de l'image, bah oui, bien sûr, c'est essentiel de le prendre en compte. Donc, finalement, la dimension symbolique hein, qui va intervenir là encore dans l'économique et donc qui va à ce titre participer de la domination. Et là, c'est vrai que sur cette l'enjeu de changer l'image de la région nantaise, c'est vrai que c'était bien l'idée d'effacer l'image la métallurgie avec ses contestations et de mettre en avant plutôt des petits créateurs d'entreprises très jeunes, dynamiques avec l'idée en plus là c'est l'ouverture du marché européen et on est tous entreprenants. Et jusqu'à effectivement l'évincement de grands noms, à la fois certaines entreprises métallurgiques bien sûr mises en avant parce qu'elles sont très importantes économiquement et voilà, mais d'autres éliminées, là, ce type de fonderie là, bon, ça en élimine, etc. Et puis ce que je disais sur valeur ajoutée ou pas, et puis les OS, donc OS du tertiaire, les supermarchés, et OS dans l'industrie. Mais par contre, ouvriers qualifiés, oui.
Par exemple, en Moselle, il y a eu une lutte à un moment donné au niveau du Conseil régional.
Une lutte assez importante entre ceux qui voulaient garder la tradition de l'élevage, etc., et ceux qui disaient ce qui est important aujourd'hui, c'est la promotion de la verdure, c'est la promotion du vert, c'est la promotion du tourisme vert, etc. Et il y a eu une lutte, là, dans les années 80-90, absolument formidable, à mon avis, dont on peut retrouver les traces, véritablement, aujourd'hui.
En fait, moi, mon propos, c'était plutôt de ne pas rentrer finalement sur ce que pensent les différents membres de la revue, et encore moins sur le passé, puisque de fait, je n'y étais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais quand on regarde aujourd'hui, finalement, comme tout collectif, les accords ne sont pas forcément si grands que ça entre les différents membres du collectif. Et quand on a fait le numéro 100, on a refait une sorte de manifeste, et ça a généré finalement beaucoup de difficultés, puisque on cherchait à mettre à plat des choses qui d'habitude finalement au quotidien ne sont pas évoquées et qui faisaient sortir des conflits sous-jacents. Et finalement l'arbitrage, c'était de dire en fait on va fonctionner sur des accords pratiques, finalement qu'est-ce que dans la pratique concrète ce sur quoi on est d'accord. Et finalement quelle identité de Genèse, l'identité de Genèse, c'est ce que publie Genèse. Voilà, et c'est pas des grands principes théoriques fondés en amont, même si bien sûr on n'arrive pas là par hasard, etc. Mais du coup, néanmoins, mon propos était plutôt de partir de non pas de ce qui se fait en quotidien d'action, mais finalement des textes qui arrivent. Et alors même que dans les appels à publication, en tout cas dans l'argumentaire qui sous-tend la rubrique savoir-faire, il est dit on attend ce type de papier. Voilà, ces papiers n'arrivent pas. Donc, c'était simplement évoquer cela. Et puis, peut-être aussi sur la question les fondateurs. Certes, les historiens sont dominants, etc., mais c'est quand même pas n'importe quel historien, si on prend Noiriel. Et c'est quand même quelqu'un qui, je pense, faudrait revoir, mais je pense quand même l'introduction de la tyrannie du national, c'est un excellent exemple de ce que c'est que construire un objet. Et c'est sans doute le cas pour beaucoup d'autres de ses livres, etc. Donc, c'est quand même des gens tout à fait sensibles à ces questions-là.
On revient sur ce que dit Charles.
Oui, moi j'avais une question pour Fabienne, savoir si elle a travaillé au niveau de ses patrons sur leur généalogie, leurs relations familiales, les enfants, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a un capital social familial qui se construit, voilà, si tu l'as étudié.
Là je l'ai parfois. C'est ça le problème, c'est-à-dire que je ne l'ai pas systématiquement à partir du moment où je suis sur une population tellement large. Lorsqu'il s'agit vraiment de dynasties, donc là j'ai les données, elles sont assez faciles à les récupérer parce qu'il va y avoir des agiographies, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'informations que je vais pouvoir recouper, etc. L'annuaire biographique était bien pour ça parce qu'on a les enfants. Là, par exemple, j'ai le président du tribunal de commerce qui a, c'est vraiment une caricature, il doit avoir 8 ou 9 enfants dont la moitié sont dans les ordres religieux. Donc ça, j'ai pu voir ça dans la nécrologie. Et du coup, c'est vrai qu'après, je suis allée voir sur certains patrons qui m'intéressaient, des figures importantes localement, sur lesquelles on n'a aucune info sur les enfants, où là, je suis vraiment allée chercher, etc. Et jusqu'à retrouver, en fait, c'est plutôt en googlisant, en voyant que, là, il dirige une petite boîte qui n'est vraiment pas en vue, il n'y a pas eu...
T'as pu repérer des stratégies de reproduction.
J'ai pu repérer des choses, là, c'était important d'avoir Zalio, qui avait travaillé avant moi, c'est-à-dire de voir notamment tout l'enjeu de, au niveau de ces dynasties, elles perdent complètement leur pouvoir économique là dans les années 70-80. En revanche, elles gardent le foncier. Et donc, on voit, c'est vraiment sur Google, où on voit les sociétés, les petites sociétés foncières, et on va voir, par exemple, les Decrets, là, je parle à Charles, où les enfants, ont leur société immobilière, et effectivement, ils n'ont plus ils n'ont plus du tout d'action. En revanche, ils sont encore propriétaires de lieux qui leur rapportent énormément. Donc ça, Zalio le montre très bien sur Marseille. Donc il y a un déclin très clair économique, mais en même temps qui permet des ressorts quand même pour les enfants et les petits-enfants.
Donc, j'aurais eu simplement une petite question, une réflexion sur l'opposition locale. Au fond, le local s'oppose-t-il au national ou au parisien ? Et ça pose la question de la pluralité des espaces dans lesquels les individus, enfin les familles, les entreprises, etc., peuvent être situés. Prenons le cas, je prends un cas un peu emblématique, Michelin. À l'évidence, Michelin n'est pas une entreprise locale. Bon, ou plus exactement, ils ont une double existence, c'est-à-dire une existence nationale, internationale, translocale en tout cas. Et puis, bien entendu, tout ce qui est local, puisqu'ils investissent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des espèces d'indicateurs de mode d'existence spatiale, avec différentes modalités, possibilités. Ouais. Des gens qui sont nulle part, par exemple... Uber, la société Uber, elle n'est pas parisienne, elle plane dans un espace immatériel. À l'inverse, il y a des petits patrons, je pense que tu en as beaucoup dans ton échantillon, des petits patrons locaux, mais dont la position peut être à elle-même variée du fait que il y a une redistribution dans le temps du local, non local, dans un même lieu qui est la région nantaise.
Le cas de la Vendée était exemplaire parce qu'avec les deux faces, à la fois le Puy du Fou qui donne une image très territorialisée, très rurale, etc. Et il ne faut pas les opposer parce que souvent ce sont les mêmes. Et de l'autre côté, c'est le Vendée Globe, c'est-à-dire qui associe la Vendée à l'univers hyper technologique, progrès technique, déterritorialisé. Le goût du risque, etc. Donc à la fois, on pourrait se dire, mais c'est deux facettes complètement opposées. En fait, c'est deux facettes complètement complémentaires, parce que à l'origine du Vendée Globe, c'est aussi le département et de Villiers. Donc c'était justement, il avait une espèce d'intuition politique trop territorialiser l'image. C'était aussi un handicap. Et donc les deux facettes ajoutées, ça devient dingue, quoi. C'est impressionnant.
Et là, on voit bien le territoire comme territoire politique.
La pub des vérandas avec notre Berne, en Vendée fabriquée. Mais tout ça, ça marche.
Ils sont fiers de leur régime, c'est vrai.
C'est l'emblème de la région.
Oui, c'est les deux que j'ai de Non, il y a un travail. Bon, c'est extrêmement dur. Bon, je vois autour de chez moi, tout le monde a sur sa voiture le petit logo Puy Follet. Et si vous voulez travailler à Fleury-Michon, c'est quand même très important.
C'est le cœur de Jésus. Hein.
Donc, si vous voulez me faire embaucher à Fleury-Michon,
vous semblez un peu passif
Une pause.
Alors, reprise à 11h30.